Voici à présent donc le débat d'orientation budgétaire que nous allons présenter à six mains, puisque donc notre adjoint aux finances Raymond Weinheimer va commencer, je viendrai ensuite le succéder, et puis Bernard Eckstein présentera également donc les orientations sur le service de l'eau. Voilà. Donc Raymond.
Merci. Donc, comme vous le savez, donc, ce débat d'orientation budgétaire s'impose aux communes de plus de 3500 habitants, dans ce cadre-là, il est proposé de parler donc des éléments extérieurs qui s'imposent aux collectivités et des propositions et des orientations qui seront faites pour dans le cadre du budget 2017. Je vous rappelle que ce débat n'a aucun caractère décisionnel et qu'il doit avoir lieu dans les deux mois qui précèdent l'examen du budget primitif. Bien, comme vous avez tous reçu le rapport, je ne ferai pas une lecture in extenso du texte et je vous ferai un petit résumé sur les points qui me paraissent les plus représentatifs et les plus intéressants, enfin, en ce qui me concerne. Donc, d'une part, on a effectivement, puisqu'on ne vit pas tout seul, on s'intègre dans le contexte économique et financier général. Donc, dans ce contexte mondial, donc, je rappelle simplement que la croissance se situe à des niveaux assez bas, qui sont à 3%. Les prévisions du FMI et de l'OCDE prévoient pour 2017-2018 plutôt 3,5, nous verrons bien. En zone euro et comme en France, le niveau de croissance est modéré et bien en deçà des chiffres qui sont constatés au niveau mondial. Pour l'euro, on était à 1,7% et en France 1,1% pour l'année 2016, après 1,2% en ce qui concerne la France pour l'année 2015. Donc dans la constitution et la construction du budget 2017. L'État, puisque nous sommes tributaires aussi de l'État de façon importante, l'État, par la loi de finances, s'est appuyé sur une prévision de croissance de 1,5% pour 2017, comme en 2016. Je vous rappelle d'ailleurs qu'en 2016, on n'a pas atteint, puisqu'on n'a pas fait 1,1%, et qu'en général, l'objectif d'1,5% est retenu, parce que c'est à partir d'1,5% qu'on commence à avoir une baisse conséquente du chômage. Donc l'annonce est ainsi faite. Et d'ailleurs l'INSEE prévoit 1,2% simplement. Et une estimation d'inflation modérée à 0,8 contre 0,6 en 2016. Et on bénéficie également, aujourd'hui, ben, vous savez peut-être tous, mais des taux d'emprunt très bas puisque le taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne est à 0% depuis mars 2016. Alors ensuite, nous avons dans le budget qui a été fait par l'État, donc il y a déjà depuis le programme de stabilité 2016-2019, les engagements qui sont pris dans ce qui concerne les réductions des déficits publics, donc qui se poursuivent avec toujours l'objectif de ramener le déficit à 3%, normalement en 2017. Et cet assainissement des comptes publics repose sur un certain nombre de réductions et malheureusement, il pèse, on en a déjà parlé, notamment l'année dernière, sur les collectivités locales par une baisse de recettes au travers des dotations. Ainsi, depuis 2014, les collectivités territoriales contribuent, à travers la ponction opérée par l'État sur la DGF, donc de la dotation globale de fonctionnement, au redressement des comptes publics. À noter que cette ponction s'est établie quand même en 2014 à 1,5 milliard. En 2015, et 2016, 3,7 milliards, et devrait s'établir de nouveau à 3,7 milliards en 2017. Alors la bonne nouvelle, la moins mauvaise nouvelle, on va dire, c'est qu'en fait, sous les interventions de l'Association des maires de France, le président de la République donc s'est engagé à réduire de moitié le montant de la contribution du bloc communal, c'est-à-dire de ramener en fait à cette contribution à 1 milliard, en gros, par rapport à 2 milliards qui étaient prévus. Donc la répartition se fait 725 millions d'euros pour les communes et 310 millions pour les établissements publics. Évidemment, les départements, les régions sont malheureusement elles aussi concernées. Ainsi, la contribution supplémentaire qui devrait s'appliquer à notre commune, si on prend les estimations et les hypothèses de l'Association des maires de France, serait de environ 175 000 euros, sachant que dans cette hypothèse ne sont pas tenus compte les autres critères qui rentrent dans le calcul, et notamment la baisse de la population. Pour mémoire, donc la DGF est passée à 4 502 000 en 2008 Elle est passée à 3 275 000 en 2016, donc en arrivant pratiquement au niveau de 1988. C'est-à-dire qu'en 1988, nous touchions 3 155 000 et en 2016, nous avons touché 3 274 000. Donc vous voyez qu'on est revenu un certain nombre d'années en arrière, donc ça représente une diminution de 27,3% entre 2008 et 2016, soit, si on le chiffre, à 1,2 million. Et qui, si on fait le calcul par rapport à la fiscalité qu'on pourrait appliquer dans notre commune, ce serait une augmentation de 15% de la fiscalité. De plus, la réforme de la DGF qui a été prévue en 2016, puis en 2017, a été repoussée en 2018. Je pense qu'il y a peut-être des élections qui arrivent, donc il y a quelques réformes qu'on met en place et qu'on repousse. Ensuite, donc, nous avons également la dotation de solidarité urbaine, donc la DSU, qui est perçue par la commune, qui ont progressé. Par contre, celle-ci a progressé en passant depuis 2008 de 828 000 à 927 000 en 2016, soit une augmentation de 98 000 euros, sachant que, bien évidemment, c'est bien loin de compenser la perte de DGF sur cette même période. Ensuite, la dotation nationale de péréquation, donc Montigny était toujours éligible à la seule part principale, son montant étant passé de 593 000 euros en 2011 à 338 000 euros en 2016, soit une baisse de 255 000 euros, ce qui représente 45% de l'attribution perçue en 2011. Ensuite, la réforme des rythmes scolaires, donc qui a été mise en place, le fonds d'amorçage a été pérennisé pour la période 2016-2017. Donc ce fonds d'amorçage représente 50 euros annuel par enfant, soit environ 80 000 euros en ce qui concerne Montigny. Je rappelle que, on en a déjà parlé l'année dernière, mais le montant supporté et le coût supporté par la commune est environ de 250 000 euros. Ensuite, il y a une autre dotation, bon, qui est un peu, qui est faible, qui est instaurée donc en faveur des communes pour les équipements des stations d'enregistrement qui concerne tout ce qui est passeport, carte d'identité, etc., et qui restait à 5 000 euros par station et par an, et ce, depuis 2011. Enfin, en matière fiscale, la loi de finances donc prévoit une revalorisation forfaitaire des bases d'imposition de plus 0,4%, sachant quand même que dans le budget est prévue une inflation à 0,8%, donc en fait, on ne va pas rattraper non plus l'inflation pour les propriétés bâties et non bâties contre 1% en 2016 et 0,9% en 2015. Alors je rappelle que tous ces chiffres que je vous donne aujourd'hui ne sont pas encore officiels puisqu'en fait les taux ne sont pas donnés, les dotations ne sont pas fixées et donc aujourd'hui on a une estimation qu'on fait pour ces différentes recettes. Ensuite les autres mesures donc en matière de frais de personnel. Il y a une revalorisation du point d'indice de 0,6%, donc avec effet au 1er février. Le SMIG augmente de 0,93%. Et ensuite, les autres mesures qui sont liées aux frais de personnel qui s'imposent à nous, en fait, il y a donc des augmentations concernant les charges. Le plafond de la Sécu, 1,6%, le cotisation vieillesse plus de 2,7%. La cotisation CNRA, CL, 3,5 pour la part patronale, 0,16 pour la part salariale, 0,16 pour la part patronale. L'IRCANTEC, 2,9 pour la part salariale, 2,9 pour la part patronale. Et le taux d'accident du travail qui est fixé à 2,88 en 2017 contre 2,43 en 2016. Ensuite, toujours dans les frais de personnel, donc il y a eu la mise en œuvre en la phase 2017 du protocole d'accord sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations, qui court jusqu'en 2020 et qui concerne les personnels relevant des catégories A, B et C. Cela consiste en une revalorisation des grilles indiciaires, d'une modification des durées d'avancement avec la mise en place de l'avancement d'échelon à cadence unique et d'une restructuration des cadres d'emploi. Ceci a bien sûr un coût qui est donc estimé aujourd'hui à 109 000 euros concernant la ville de Montigny. Ensuite, les administrations pour lesquelles on est également concerné, puisqu'on en a parlé tout à l'heure en parlant du conseil départemental, et également la communauté d'agglomération ou la métropole bientôt. Donc le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, malheureusement, suit la même tendance que les dotations de l'État. Depuis 2009, l'attribution qui nous était allouée n'a cessé de diminuer, donc est passée de 383 000 en 2009 à 60 000. Donc ce qui fait qu'on est revenu pratiquement également, c'est même moins qu'en 1988, puisqu'on était à 96 000. Au niveau de l'agglomération, donc actuellement sont en discussion un certain nombre de transferts de compétences entre la communauté urbaine, la métropole, donc maintenant, donc il y a... Non mais je dis aujourd'hui, c'était à l'époque c'était la communauté urbaine, maintenant c'est la métropole. Donc il y a donc une commission locale d'évaluation des charges transférées qu'on nomme simplifiant la CLEC, donc qui va fixer l'attribution de compensation qu'il avait fixée pour 2016 à 1 375 000. Pour 2017, il conviendra de prendre en compte les nouveaux transferts de charges liés aux compétences, tourisme, aire d'accueil des gens de voyage, zones d'activité économique, etc., qui feront l'objet d'évaluation. En matière de dotation de solidarité urbaine, également pour la métropole, il est rappelé que son enveloppe est alimentée par une fraction du surplus annuel de taxes professionnelles constatée sur le territoire, fraction dégressive pour tenir compte de la montée en charge des compétences de la communauté. Le montant alloué à Montigny en 2016 était de 586 000, contre 594 000 en 2015, donc pratiquement égal, et qui avait augmenté par rapport à 2014. Donc c'est pareil, ce sont des attributions dont on aura les chiffres un peu plus tard. Ensuite, concernant la situation financière de la commune, comme vous avez tous eu le rapport, et que nous n'avons pas encore aujourd'hui les chiffres arrêtés de l'année 2016, puisqu'en fin de compte, le compte administratif n'a pas encore été présenté, et d'autre part, les comptes n'ont pas encore été approuvés par les services de la trésorerie. Simplement, vous avez pu remarquer qu'il y a certaines, baisses de charges et d'efforts qui ont été faits en 2016 comme en 2015 et qui seront également poursuivis en 2017 et qui vous seront donc communiqués lors du compte administratif. Ce qu'on peut simplement dire, parce qu'il y a un chiffre qui est arrêté, c'est le chiffre de l'endettement puisqu'on le connaît. Donc les charges financières continuent à baisser, passant de 818 000 euros en 2012 à 734 000 en 2015, et l'endettement de 22 228 000 en 31 décembre 2016, et souhaite une baisse de 834 000 euros. L'endettement s'élève à 997 euros par habitant. Il faut savoir qu'au 31-12-2015, on était à 1024 euros par habitant, et que si on compare à la moyenne des communes de notre strate, elles sont à 1109 euros par habitant, qui était le chiffre qu'on connaît puisqu'on est qu'enfin pratiquement que 2016 n'est pas encore loin, mais qui était le chiffre à l'époque de 2015. Donc 2016, je ne sais pas. Donc les orientations budgétaires pour 2017. Donc en ce qui concerne le fonctionnement, donc dans la continuité des exercices précédents, puisqu'aujourd'hui le budget n'est pas bouclé, une attention permanente est portée sur les économies à réaliser sur tous les postes composant le BP, et ça me permet de remercier publiquement les fonctionnaires qui ont travaillé sur ce budget, accompagnant cela par le DGS masculin et le DGST masculin aussi, et avec le directeur des finances, Jean-Michel Pillet, masculin également, et donc qui nous ont aidés et qui nous aident à faire ce budget. Donc nous aurons à effectivement bien regarder tout ce qui est les charges à caractère général, les charges de personnel, les charges de gestion courante et les charges financières dont on a parlé tout à l'heure. De plus, la commune est donc maintenant à une contribution au Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, donc les communes plus riches donnent aux communes plus pauvres, dont le montant s'est établi à 38 000 euros en 2016. En 2017, pour l'instant, c'est l'inconnu. Concernant les recettes, le BP tiendra compte de tous les éléments que je vous ai présentés tout à l'heure, malheureusement, et la recherche permanente, on en a parlé tout à l'heure, permanente de financement extérieur. En ce qui concerne la fiscalité, il n'est pas envisagé de modifier les taux d'imposition, qui resteront donc fixés comme il était précédemment. Je fais juste un petit rappel par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que vous voyez que les dépenses, on avait 109 000 euros de plus en charge de personnel pour le protocole d'accord, simplement, sans compter les augmentations du SMIC et des charges sociales. 170 000, toujours d'écart pour les rythmes scolaires, ce qui fait que sans avoir rien fait de particulier, on a déjà pris 270 000 euros de charges supplémentaires. Dans les recettes, la DGF, on peut estimer à moins 224 000, contre, ça a baissé, c'est la baisse de la baisse, puisque en 2015, c'était moins 400 000, et le Fonds national de TP, donc moins 67 000, contre moins 25 000 en 2016. Ce qui nous fait, si j'additionne les deux, déjà simplement comme ça au départ, moins 570 000 euros de recettes ou de dépenses en plus, sans compter les compensations de l'État, sans savoir les chiffres définitifs, et dans l'attente, effectivement, aussi des transferts de la métropole plus tard. Mais enfin, la métropole, c'est normalement des transferts avec des recettes, dépenses qui devraient s'équilibrer, normalement. Voilà, donc pour l'investissement, je vais passer la parole à Jean-Luc Baul. Je voulais juste rappeler qu'effectivement, les investissements étaient de plus de 7 millions sur les exercices 2013-2014. Sur 2015-2016, on en a parlé, on avait fait une pause des investissements qui vont repartir sur 2017, vous allez voir, et donc qui préparait à cette époque les futurs travaux, les futurs investissements de 2017-2018, conformément à nos prévisions d'investissement qui avaient été prévues, et ce qui nous a permis effectivement d'anticiper les dépenses d'investissement plus importantes pour les années futures. Moi, je te laisse la parole.
Voilà, merci Raymond. En effet, comme vous pouvez vous imaginer, cette année qui s'ouvre budgétaire sera aussi une année singulière pour notre commune, comme pour toutes les communes de l'agglomération, et par conséquent, bien évidemment, pour l'agglomération, puisque cela préfigure d'une certaine manière ce travail que nous aurons à mener ensemble pour la transformation de notre communauté d'agglomération en métropole au 1er janvier 2018, lorsque la loi sera bien évidemment, et je l'espère ardemment, adoptée normalement dans quelques jours, au mois de février, à l'Assemblée nationale. Je voudrais donc vous dire que nous avons prévu sur les et en fonction de évidemment des du PPI qui était le nôtre, donc du programme pluriannuel d'investissement, outre tout ce travail qui va continuer sur la reconversion des sites militaires, quartier Raymond, quartier Élysée, surtout quartier Élysée, parce que quartier Raymond, c'est encore à mettre, pour ma part, pour l'instant, en parenthèse, du fait des difficultés que nous rencontrons dans les négociations sur le coût des fonciers qui n'étaient pas à l'euro symbolique. Donc nous travaillons actuellement et nous ouvrirons bientôt les candidatures pour les équipes qui seront susceptibles de venir donc en fonction du parti d'aménagement que nous avons fixé pour le quartier Élysée, eh bien de venir urbaniser donc ce quartier et l'ouvrir évidemment ainsi à la ville avec des perspectives je pense encourageante pour à la fois le respect du patrimoine, mais en même temps eh bien de nouveaux quartiers qui permettront d'accueillir de nouvelles familles et également de nouvelles activités. Donc, comme on l'a souligné tout à l'heure, cette année sera consacrée spécifiquement, s'agissant des investissements, à la réhabilitation de l'espace Europa, de la salle Europa, qui devrait donc commencer en avril 2017 sur une durée prévue de 12 mois. Nous avons également prévu la réhabilitation sur deux exercices de l'église Saint-Joseph, puisque, comme vous pouvez le voir, les intempéries récentes l'ont démontré, elles présentent quand même un état de fragilité et de fatigue assez significatif, et nous avons assisté hier à la dépose d'un crucifix de près de 2 mètres de haut sur le faîte du transept gauche. D'ailleurs, c'est une très belle sculpture. C'est toujours intéressant de voir de près ce qu'on nous présente de loin. Et nous aurons également à poursuivre donc toutes ces opérations de mise en conformité de nos bâtiments publics recevant donc du public dans le cadre de l'ADAP. C'est donc l'agenda d'accessibilité programmé. C'est un travail de longue haleine, vous le savez bien, sur lequel on n'est jamais suffisamment bon, mais il faut évidemment, dans ce cadre-là, viser à l'excellence pour permettre que le service public puisse être exercé pour tous les publics. Parmi les autres opérations susceptibles d'être inscrites au budget et dont on pourra discuter, hein, bien évidemment, nous poursuivons, malgré le fait que il y aura bientôt transfert sur l'agglomération, eh bien des travaux au 1er janvier 2018, hein, travaux en matière de voirie, d'éclairage public également et de signalisation sur notamment les rues Étang de la Grange, rue des Couvents, rue des États-Unis, avec également la reprise de stationnement, c'est pas un luxe, rue de Nomni, avec les arbres qui soulèvent les enrobés, macadam, et rue Fragnat également, remplacement des luminaires des rues Montcassin, Étang de la Grange et de la Cité, ou également des renouvellements de réseaux et de portées de câbles. Sur le volet espace vert, aménagement, équipement, donc nous avons des travaux à réaliser Square Philippe Lebon, en complément du programme R de jeu, l'aménagement du Square Marguerite et du parc de Courcelles à l'entrée côté Charles de Gaulle. Et des travaux également dans les cimetières avec la fourniture de nouveaux colombariums. La poursuite également des aménagements aires de jeu sur l'aire Philippe Lebon. Les travaux dans les gymnases avec la mise en œuvre d'un éclairage extérieur de sécurité à Bernanos et sur Mermoz. Acquisition d'une tondeuse autoportée, différents matériels pour l'entretien du nouveau stade Kinsich, puisque vous savez que ce sera un magnifique gazon qui pourra accueillir donc nos équipes, ainsi que les travaux de réfection et de mise en tribune en peinture de la tribune. Nous prévoyons d'ailleurs, c'est pas inscrit sur votre rapport, mais je pense que ce sera pas un luxe de donner un petit coup de rafraîchissement à cette salle dans laquelle nous nous trouvons, enfin de rafraîchissement si je puis dire, s'agissant la chaleur ambiante que nous avons ce soir, et donc remise en peinture, ainsi que la réfection des rideaux qui sont quelque peu vintage, mais qui ont servi. Nous avons également à prévoir des travaux dans les bâtiments scolaires, toujours, avec des stores occultants, la réfection de couloirs dans le groupe scolaire Marc Sangnier, les aménagements de salles à l'école élémentaire Giraud, la pose de visiophones dans le cadre de mesures de sécurité, comme vous savez, c'est nécessaire, c'est dans différentes écoles, et la poursuite en équipement informatique des établissements scolaires, avec les ordinateurs portables et les fameux TBI, les tableaux blancs interactifs. Les travaux sont également réalisés au centre Abbé Châtelain avec le remplacement de la climatisation. Travaux également d'amélioration des conditions d'accueil dans les structures multi-accueil avec une participation financière de la CAF de la Moselle à hauteur de 50% des dépenses hors taxes, conformément à la délibération que nous avions prise donc le 14 décembre 2016, régularisation foncière habituelle à faire, ainsi que, je l'espère, l'acquisition de l'ancienne station Total en face de l'hôtel de ville, qui serait donc destinée à accueillir un magnifique espace vert avec une œuvre d'art. Et c'est moins glamour, mais une balayeuse de voirie, un véhicule de type fourgon et une saleuse donc sont prévus, ainsi que des acquisitions de logiciels et matériels informatiques avec le changement de l'autocom et les matériels de téléphonie, remplacement des matériels réseau permettant un accroissement de la sécurité et des débits, ainsi que le renouvellement d'une partie du parc des photocopieurs, sans oublier l'équipement des services municipaux en outillage et matériel divers. Donc vous voyez, mes chers collègues, ces orientations que nous vous proposons et dont nous aurons d'abord à débattre avant de les concrétiser à travers le budget qui sera présenté lors du prochain conseil municipal. Donc si vous voulez bien, je vous propose, avant de passer à la discussion, d'ouvrir simplement la page sur les orientations budgétaires s'agissant du budget annexe de l'eau, et demander donc à l'adjoint en charge de bien vouloir nous le présenter. Cher Bernard, c'est à toi.
Merci, Monsieur le maire. Donc, la ville de Montigny exerce les compétences de production, de transport et de distribution de l'eau potable sur l'ensemble de son territoire, ainsi que sur celui de Châtel, Moulins, Sichazel, Marly et Ogny. Par la délibération en date du 29 mars 1993 et par convention en date du 30 mars 1993, la collectivité de Montigny a décidé de déléguer par affermage l'exploitation de son service public d'eau potable à la société SOR sur le territoire de six communes précédemment citées. Selon les termes du contrat, la SOR assure l'exploitation, la surveillance, le fonctionnement et l'entretien des installations et d'autre part la réalisation des travaux mis à sa charge par le contrat ainsi que la conduite des relations avec les usagers du service. La SOR gère ce service à ses risques et périls, conformément aux règles de l'art. Ce contrat avec la SOR arrivant à terme le 30 juin 2018, c'est bientôt, les collectivités concernées par ce périmètre de délégation de service se sont réunies à plusieurs reprises afin de statuer sur le futur mode de gestion pour l'eau potable à compter du 1er juillet 2018. On l'avait déjà dit, ça. À l'unanimité, et en intégrant le transfert de la compétence eau à Metz Métropole, important ça, le 1er janvier 2018, les élus ont décidé d'un retour à une gestion publique de l'eau par le biais d'une régie autonome à personnalité morale. Il est donc prévu qu'avant le transfert de compétences, le projet de régie soit d'abord porté par l'actuel service des eaux de la ville de Montigny, sous couvert d'un comité de pilotage incluant les élus et les services des six communes concernées. À charge de Metz Métropole, nouvellement porteuse de la compétence eau, de lancer la future régie sous son égide. Alors, la situation du service en 2016, l'exercice comptable de 2016 se solde par un excédent global de 4 282 559 et les principales opérations réalisées en 2016 conformes au programme du budget 2016 sont les suivantes: maîtrise d'œuvre et travaux de raccordement de la vallée de Montvaux à la ceinture sud, la pose de purge d'extrémité sur le réseau, le remplacement d'un véhicule et le renouvellement de conduite. Les orientations 2017, en fonctionnement, outre les dépenses habituelles, il est prévu de renforcer le personnel en place par un poste à temps plein dédié aux missions de déploiement du projet de régie autonome à personnalité morale prévu en remplacement du fermier SOR et d'accompagnement de la commune pour le transfert de compétences à Metz Métropole. Ça, ce sont des gros sujets de l'année qui arrive. Et en investissement, il est prévu de poursuivre le plan de protection des captages, déjà commencé les années précédentes, avec la pose de systèmes anti-pollution et anti-intrusion. Les études et travaux envisagés concernant le renforcement et l'amélioration du service se répartissent de la sorte. Il y a des renouvellements de conduite, comme celle de la rue du Ruisseau à Châtel-Saint-Germain ou de la rue de Chaponoz à Moulins, entre autres. Les études et travaux de réparation sur les réservoirs de Marly et de Blory, les travaux de sectorisation du réseau d'eau, pose de compteurs pour améliorer la recherche de fuite, et enfin les études de mise aux normes des ouvrages de sécurisation de la ressource en eau brute et du patrimoine du service. Voilà. Je ne vous donne pas tous les chiffres, mais vous les voyez sur votre écran.
Bien, comme vous voyez, donc l'année qui s'annonce sera également une année décisive pour permettre le basculement en 1er janvier 2018 en régie autonome de notre service de l'eau et régie autonome à personnalité morale et évidemment ensuite c'est Metz Métropole qui, ayant la compétence eau, aura à gérer, si je puis dire, la mosaïque des différentes structures de gestion existant sur le banc intercommunal, puisque, comme vous le savez, donc, il y a plusieurs systèmes qui existent et donc il nous appartiendra de faire, au niveau de l'agglomération, l'ensemblier, si je puis dire, pour permettre une gestion cohérente de l'ensemble du dispositif avec, à chaque fois, eh bien, les différents systèmes qui existent et qui seront maintenus ou développés, puisque certaines communes sont pour l'instant autonomes. Voilà, donc j'ouvre la discussion sur ces orientations budgétaires et donc j'attends les interventions. Donc, Monsieur Laurent, Madame Vollmer. Monsieur Laurent, vous avez le micro.
Merci, Monsieur le Maire. Donc, évidemment, il y a plusieurs points. Je vais essayer de ne pas être trop long. Globalement, je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est pas un DOB qui fait rêver. Hein. On a le sentiment quand même d'une certaine routine. Je vais m'en expliquer dans ma démonstration. Je vais revenir dans l'ordre du document. Alors vraiment, merci Monsieur l'adjoint de nous avoir épargné la lecture des données économiques, parce que bon, la situation de la Turquie, de l'Italie, du Japon et de la Chine, si ça permet d'expliquer un contexte, ça n'a pas un grand intérêt pour notre commune. Alors certes, peut-être que le ralentissement de l'activité en Chine explique l'échec du projet Terra Lorraine, mais bon, ça, c'est une extrapolation. Sur les dotations, je pense qu'il faut quand même saluer l'écoute du gouvernement qui a pris en compte la demande de l'Association des maires de France et de réduire de moitié la dépense. Je pense que ça va dans le bon sens. Sur le report de la réforme de la DGF, effectivement, on en a d'élections. On sait ce que c'est. Bon, je pense qu'il y a eu des reports dans de mêmes circonstances qui étaient un peu plus douloureux. Je pense notamment à l'écotaxe. Et j'en profite, Monsieur le Maire, pour vous dire tout mon soutien sur la demande d'expérimentation que vous avez faite. Je pense que nous sommes un territoire qui devons expérimenter cette taxe poids lourd. Ensuite, vous abordez de nouveau les rythmes scolaires. Alors bon, ça change pas par rapport à l'année dernière. Je pense que la présentation est assez malhonnête. On en a déjà parlé. Vous imputez au rythme scolaire toute la mise en place d'un périscolaire. Mais il n'y en avait pas avant et ça faisait cruellement défaut dans notre commune. Donc je pense qu'il était indispensable, changement de rythme ou pas, et la partie de la compensation, je pense, serait venue compenser l'heure en plus journalière qu'il y avait. Je pense que le périscolaire, c'est indispensable parce que ça crée de l'attractivité dans une commune et on perd de la population, comme Metz d'ailleurs, même si c'est pas l'hémorragie comme on a pu le dire il y a quelque temps, mais voilà, ça fait partie d'une prestation qui semble indispensable. À ce sujet, vous nous aviez promis un rapport détaillé sur le coût de la mise en place du périscolaire. Ça serait bien qu'on puisse l'étudier un jour et puis qu'on puisse avoir ce rapport pour effectivement voir les chiffres précis. Ensuite, vous évoquez la dette. Alors là-dessus, je dois dire qu'il faut saluer votre action. Beaucoup de communes parlent de la baisse de la dette et on le voit rarement. Là, en l'occurrence, la dette baisse et vraiment, on peut se satisfaire de ça. Comme quoi, malgré les baisses de dotation générales, on arrive quand même à réduire la dette et c'est une bonne chose. Alors ensuite, le quartier Élysée. Alors je suis très agréablement surpris de vos propos, Monsieur le Maire, parce que pour tout vous dire, nous on avait eu des informations de l'armée comme quoi ils souhaitaient conserver le quartier Élysée pour développer le service militaire volontaire. Voilà ce qui nous avait été dit. Alors bon, on n'est pas à l'abri de fausses informations, peut-être pour tromper l'ennemi. Mais en tout cas, d'ailleurs, service militaire volontaire qu'on peut saluer. Il y a une très bonne émission dimanche soir et on a vu toute l'efficacité et l'utilité de ce dispositif. Et en tout cas, pour ma part, j'en ai tiré une certaine fierté d'avoir ce dispositif dans notre commune. Alors ensuite, alors le quartier Élysée, du coup, si on le récupère, on peut avoir l'espoir d'avoir un collège, le fameux collège un jour, et donc ça serait vraiment une bonne nouvelle. Alors en investissement, vous nous vendez un petit peu du rêve, là, achat de tondeuses, équipement des services en outillage, de logiciels, des photocopieuses, des stores occultants. Alors oui, j'ai envie de dire encore heureux qu'on fournisse à nos agents les moyens de travailler. Je trouve pas que ça soit des orientations budgétaires vraiment marquantes, même si je conteste pas le fait qu'il faille effectivement équiper nos agents avec tout ça et que les achats sont indispensables. Hein. Mais ça vend pas du rêve, c'est ce que je disais en introduction. Ensuite, je regrette un peu qu'on n'évoque pas là-dedans des actions pour l'agenda 21. Alors, on en parlera plus tard dans le conseil. Bon, il y a les vaches qui reviennent, et c'est une bonne chose, mais c'est pas nouveau. Les points d'apport aussi pour le textile, ça c'est bien, mais bon, on n'en parle pas dans le DOB, je trouve ça dommage. Pareil pour la démocratie participative, mais bon, là-dessus, on sait qu'on partage pas vraiment la même vision, et on en avait déjà parlé l'année dernière. Moi, je regrette qu'il n'y ait pas de concertation plus que ce qui n'est fait aujourd'hui avec la population, notamment sur la mise en place des squares. Mais bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire, et ça serait bien de pouvoir consulter, ne serait-ce qu'à travers les écoles et les parents d'élèves, savoir un peu les besoins et les envies de la population sur ces sujets. Alors concernant les taux d'imposition, on se satisfait qu'ils ne bougent pas. J'ai envie de dire, vous avez raison, monsieur le maire, de ne pas les augmenter. Votre voisin s'en est chargé la semaine dernière. Et je regrette vraiment que, d'ailleurs, monsieur le premier adjoint, que vous ne vous êtes pas abstenu, comme certains de vos collègues qui ont refusé cette augmentation de 10% mise en place par monsieur Weiten. Et je pense que c'était pas la période de le faire. Et j'étais complètement contre. Hein. Sur l'eau, vous connaissez notre soutien au retour en régie, donc vraiment sur cette partie, nous n'avons aucun commentaire à faire, nous vous soutenons, il n'y a aucun problème. Donc voilà, en conclusion, je trouve que c'est un peu la routine, rien de bien nouveau. Bon, la salle Europa, mais ça fait depuis la campagne qu'on en parle, ça fait 2 ans. Alors, certes, ce soir, l'annonce du retour dans le giron municipal du quartier Élysée est enthousiasmant, et donc espérons qu'on retrouve un peu cet enthousiasme dans le budget. Je vous remercie.
Merci, Madame Vollmer.
Comme certaines choses ont été dites et que je partage partiellement, je dirais que quand même, par rapport à la présentation au niveau des taux d'imposition, ce qui est regrettable, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les rôles sont quand même bien partagés entre le département, l'agglomération et la ville, puisqu'on a l'impression que les vases communicants, on augmente les impôts au niveau du département, au niveau de l'agglomération, mais finalement, on n'essaye de pas, et heureusement pour Montigny, on n'augmente pas le taux d'imposition. Mais en définitive, c'est toujours le contribuable qui, en fin d'année, va voir augmenter sa feuille d'impôt. Mais c'est vrai, l'automne est encore loin, même si aujourd'hui, il fait bien froid comme en hiver. En même temps, la ville ne cesse de perdre ses habitants. Et ça s'en ressent évidemment sur les finances et les dotations. Et je suis étonnée qu'on ne se pose pas la question du pourquoi. Hein. En même temps, on nous annonce le départ des ESAT de Montigny. Donc, une fois de plus, l'hémorragie n'est malheureusement pas terminée. Après la SNCF, on assiste à encore un autre important pourvoyeur d'emploi qui va quitter la ville de Montigny. Alors oui, si le quartier Élysée, mais on en a parlé tellement souvent, va donner peut-être un peu plus de dynamisme, moi je vous pose la question, que fait-on pour éviter les départs des entreprises et en tout cas des pourvoyeurs d'emplois? La population baisse, mais comment peut-on continuer à accepter cette décroissance? Et si on était un peu plus à l'écoute des administrés, notamment au travers, et vous connaissez ma position sur la politique équitable en matière de tarification, que ce soit les cantines, les activités diverses, probablement que la ville apporterait un attrait, même si nous avons, grâce au travail des employés municipaux acquis la fleur d'or, ça n'est pas pour autant que ça amène plus de monde sur la ville de Montigny. Sur l'investissement, oui. Heureusement qu'il y a la salle Europa, qu'on a anticipé à juste titre cette rénovation, cette réhabilitation. Mais il y a encore beaucoup à faire. Lorsqu'on voit le niveau d'isolement de certains groupes scolaires, je suis au regret je suis déçue qu'on ne retrouve pas ce genre d'investissement au niveau du DOB. Hein. Notamment certains groupes où on s'aperçoit que les tuyaux dans les couloirs chauffent à tout va, alors qu'à côté, on a encore de simples vitres. Donc ça se posait la question où on met le curseur pour faire des économies. Parce que là, ce sont aussi des économies de fonctionnement. En même temps, c'est vrai, il y a les balades thermographiques qui peuvent apporter des réponses aux particuliers, mais ce qu'on applique aux particuliers, on n'essaie pas de l'appliquer à la ville. Oui, des économies, on peut en faire. Alors je dirais que, oui, comme disait Alexandre Laurent, c'est un budget qui doit se satisfaire de peu de choses, mais il y aurait certainement encore beaucoup de choses à faire au travers de ne fût-ce que ce que je viens de dire par rapport à l'isolement de certains bâtis. Vous faisiez aussi part de cette salle, oui, changer les rideaux, mettre un peu de peinture, mais ça n'empêchera pas. Bon, on aura la chance, peut-être l'année prochaine, d'avoir les conseillers municipaux dans une belle salle bien isolée, mais la réalité, c'est que ceux qui utilisent au quotidien cette salle, eh bien, vont continuer à avoir froid. Peut-être faut-il réfléchir pour le prochain budget, ou voire même encore le budget de cette année, à isoler ne fût-ce que cette salle. Voilà ce que je voulais partager avec vous, même si nous ne le partageons pas. Ceci dit, je remarque, pour interpeller M. Weinheimer, que c'est encore un homme qui a parlé d'économie.
Bien, merci. Pas d'intervention. Écoutez, madame, je voulais juste vous rappeler que ça n'est pas un budget, ce sont que des orientations budgétaires, hein, puisque vous n'avez pas échappé qu'il n'y avait pas forcément des chiffres. Simplement vous dire que nous continuons ces travaux considérables que nous avons entrepris depuis de nombreuses années sur le patrimoine scolaire, et que nous continuons à réfléchir, comme vous le savez, sur la rationalisation du bâtimentaire sur le scolaire, ce qui engendrera probablement, même sûrement, la fermeture d'une école maternelle pour le regroupement donc dans un groupe scolaire à Giraud. Voilà, ce qui évitera effectivement qu'on ait à chauffer l'extérieur. Vous dire que sur l'attractivité de la ville, sur la perte d'habitants que vous évoquez, c'est vrai qu'on a eu un certain nombre de chiffres qui ont été annoncés jusqu'en 2014 par l'INSEE, avec des moyens de calcul qu'on peut toujours discuter, bien évidemment, qui se reposent sur des échantillonnages de population. Cela dit, c'est vrai, nous avons fait l'objet d'une restructuration militaire suite au livre blanc de la Défense, et que la ville a perdu de nombreuses familles nombreuses d'ailleurs, et qui avaient évidemment à jouer un rôle important dans le tissu et la sociologie de notre ville. Mais je crois que ces chiffres vont être, je pense, corrigés, car vous le savez, notre ville fait tous les efforts nécessaires pour développer l'attractivité, le cadre de vie, et avec des équipements qui défient toute concurrence s'agissant de leur qualité. Et je pense, puisqu'on a eu, c'est toujours intéressant d'entendre les visiteurs de l'extérieur, notamment je pense à l'inspecteur d'académie qui est venu lors de notre visite des écoles et qui a souligné la très grande qualité des équipements scolaires, et donc on peut évidemment que s'en féliciter. S'agissant de l'ESAT, il y a aussi, de la part de certaines associations, nécessité de rationaliser et de rapprocher, de rassembler les diverses activités. Malheureusement, nous n'avions pas la place suffisante pour pouvoir regrouper tout cela au niveau du CMSEA sur notre ville. Mais bien évidemment, nous continuons à travailler sur la cantine scolaire, en particulier en lien avec les CMSEA. L'intervention de Monsieur Laurent. Alors évidemment, vous parlez de routine, ça fait pas rêver, etc. Moi, je suis pas là pour envoyer du rêve. Je suis là pour faire vivre des gens avec des services de qualité et avec des moyens que l'État, qu'on le veuille ou non, de plus en plus restreint. Et évidemment, dans ces conditions-là, vous avez pu le voir aussi d'ailleurs dans le rapport, que la DGF est passée de 4,5 millions en 2008 à 3,2 millions en 2016, soit une diminution de 27,3%, ou 1,2 million représentant 15% de fiscalité. Donc voilà, l'État joue son rôle, mais bon, je ne critique pas tout, puisque nous sommes partenaires et je sais que tout le monde doit faire des efforts, mais en tout cas, Voilà, moi je crois qu'il faut continuer à entretenir notre patrimoine, c'est ce que nous faisons avec la salle repas, avec l'église, avec la voirie, avec l'éclairage public, avec la mise en accessibilité de nos bâtiments, et tout cela, ben, c'est vrai que ça ne fait pas rêver, mais ça fait vivre et ça fait travailler l'économie locale, ce qui me semble également important, c'est vrai que si nous avons perdu l'écotaxe, merci Madame Royal, eh bien nous avons le SMV qui s'est implanté, dont je suis particulièrement heureux aussi, et je me félicite d'avoir pu faire en sorte que Montigny soit suffisamment séduisante pour permettre bien que s'implante chez nous cette structure expérimentale que pour ma part j'ai beaucoup apprécié lors du reportage sur une chaîne de télévision. Ça change de certaines publicités qu'on nous fait habituellement sur d'autres faits divers. Voilà, je crois que c'était aussi important de le dire. En tout cas, voilà, je crois que nous sommes dans une gestion, on va dire, puisqu'on aime bien le développement durable, eh bien, une gestion raisonnée de notre ville, avec à la fois la nécessité de poursuivre l'investissement. Alors, c'est vrai que nous avons fait une pause, puisque, comme vous le savez, nous avons durant 2 années mis le paquet à hauteur de 7 millions d'euros pour pouvoir réhabiliter le centre nautique qui attire plus de 120 000 personnes annuelles dans les meilleures conditions possibles. Voilà, et je pense qu'on a vraiment un équipement qui est salué par toutes et tous. Et puis également, continue à injecter dans l'économie locale et donc à contribuer à ce que se développent les emplois, tout en essayant de rendre attractive notre ville avec le travail sur l'urbanisme. On voit les nouveaux quartiers qui se créent, avec notamment le quartier aux Unions qui se développe, et les projets prévus également sur le quartier Élysée. Mais vous savez que les négociations avec l'État sont toujours très longues et difficiles, et moi je ne veux pas je préfère prendre le temps nécessaire pour faire en sorte que notre gestion soit la plus saine et la plus sérieuse possible, quitte en effet à ne pas faire rêver, mais je crois qu'il est important aussi de contenir la fiscalité, comme à l'instar de ce que nous avons prévu au niveau de l'agglomération cette année. Donc nous ne toucherons pas aux taxes des ménages. Il y a une intervention de notre adjoint aux finances.
Merci. Je voudrais dire quand même que dans les propos de Mme Vollmer, il y a des choses que je ne peux pas accepter, et qui sont ces espèces d'allégations qui font que nous aurions une confusion entre la fiscalité de Metz Métropole, la fiscalité du département et la fiscalité de Montigny-le-Metz. Moi, je peux vous dire que je suis aujourd'hui, avec toute l'équipe municipale ici, garant des finances de la ville de Montigny et des taxations de la ville de Montigny, et non pas celles du département ni de la communauté d'Aglo. Et je ne voudrais pas qu'on mette des confusions, et il n'y a aucune compensation entre l'un et l'autre. Ce n'est pas parce qu'il y a des personnes qui sont identiques à deux têtes de collectivités que, effectivement, on va dire « Ah ben tiens, j'augmente les impôts cette année à l'agglo, puis alors on va faire à Montigny ». Je ne peux pas admettre ces choses-là. D'autre part, sur la faiblesse des investissements, comme vous le dites d'ailleurs un peu, Monsieur Laurent aussi, je peux vous dire que vous avez vu un petit peu les efforts que nous sommes obligés de faire pour tenir en fait les budgets qu'on fait aujourd'hui, et que nous avons engager un certain nombre de dépenses en fonction des possibilités que nous avons. Et même si à une époque on nous avait traité d'un qualificatif que je ne répéterai pas, si nous en sommes aujourd'hui et que nous sommes encore en bonne santé, c'est parce que nous avons fait ces efforts et que nous avons fait ces choix, et que je voudrais remarquer quand même que le mandat n'est pas terminé, et qu'il y aura évidemment après la salle Europa d'autres actions qui seront faites, Mais aujourd'hui, nous sommes fixés des priorités et nous nous tenons à ces priorités et nous irons petit à petit vers l'amélioration d'autres départements, d'autres bâtiments, d'autres choses. Voilà ce que je voulais simplement préciser. Merci.
Avec aussi, bien évidemment, le souci du contenir le fonctionnement. Et à cet égard, je tiens à remercier à la fois nos services et les collègues en charge des différents dossiers qui veillent à contenir nos dépenses de fonctionnement, puisque, évidemment, il est nécessaire que chacun fasse des efforts. Et c'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile de dire à des associations qu'on va baisser leur dotation ou maintenir, ce qui est déjà pas mal. Donc, pour là aussi essayer de faire en sorte qu'elles puissent continuer leurs actions en direction de tous les publics, de toutes les générations dans notre ville. Et j'ai assisté hier à une réunion, puisque je siège au bureau de France Urbaine, ce sont les maires et les présidents des grandes agglomérations et des grandes villes de France. Et j'ai l'impression que c'est un peu la course à l'échalote, à celui qui baissera le plus possible son budget de fonctionnement et ses investissements. Pour aujourd'hui, pour autant, bien nous ne sommes pas encore réduits à baisser de manière drastique. Vous me direz, on n'a jamais vécu au-dessus de nos moyens, donc on n'a jamais été dans les grandes dépenses. Mais voilà, il faut essayer d'être néanmoins en état de pouvoir offrir un niveau de service le plus optimal possible malgré les situations difficiles que connaissent actuellement les collectivités territoriales. Bien, mais écoutez, je vous remercie en tout cas de la qualité de ces interventions et aussi des compliments qui m'ont été faits sur un certain nombre de sujets auxquels nous sommes bien évidemment sensibles.